Alors, pour évoquer l'apparition de la Vierge Marie à Fatima, il faut tout d'abord dire que parmi les apparitions de la Vierge, c'est celle qui est une des plus importantes de toute l'histoire du salut, parce que lorsqu'on l'étudie très sérieusement, vous voyez qu'il y a une véritable volonté de la part de Dieu de développer ce message et cette apparition. Vous verrez qu'il y a beaucoup de surnaturel dans cette apparition, et surtout des événements qui se développent sur près de 100 ans. Il n'est pas normal, si vous voulez, qu'on fasse encore de très grandes solennités si c'était une simple apparition ordinaire. Et la divulgation d'un des feuillets de Fatima en l'an 2000 montre bien que c'est un message extrêmement important et qui pèse sur le successeur de Pierre, le pape, qui doit diriger l'Église avec cette apparition comme un des éléments de la vie de l'Église. C'est indéniable, avec toutefois aussi la connaissance d'autres apparitions qui sont connexes, mais Fatima, nous le verrons ce soir, est absolument exceptionnelle. Enfin, plus on étudie Fatima, plus on se dit que la Vierge Marie a une autorisation toute particulière et toute spéciale pour des événements que nous vivons actuellement, en fait. Alors, pour étudier l'apparition de Notre-Dame de Fatima, bien, je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen d'entrer dans cette volonté divine que de suivre un plan totalement chronologique. Pourquoi ? Eh bien, comme toute apparition, voyez-vous, c'est quelque chose qui arrive d'un seul coup et qui nous bouscule, et qui particulièrement bouscule les voyants et les parents des voyants. Et j'ai laissé exprès les récits des doutes et des interrogations des parents et la manière dont ils ont été plus ou moins convaincus jusqu'au miracle du soleil. Donc, vous avez sur ce feuillet, ce petit livre, la première page qui est simple, c'est les apparitions de l'ange. Trois apparitions en 1915 et trois apparitions en 1916. Ensuite, les apparitions de la Vierge Marie. Il y en a eu sept, dont celle du 13 août. En fait, il y en a eu six aux enfants et une pour ceux qui étaient venus alors que les enfants avaient été mis en prison. Vous voyez. Et l'apparition du 19 août n'a pas été au même endroit. Mais d'ailleurs, ça a été l'occasion pour les parents des enfants, hein, alors que c'était quand même la quatrième apparition, de finir par se poser des questions. Les oncles et tantes aussi qui avaient honte de ces enfants, c'est comme à l'île Bouchard, quand vous avez les enfants qui sont revenus en disant « on a vu la Vierge Marie à l'église », je crois qu'ils ont reçu une paire de claques de la part du père, la mère les a mis dans leur chambre, mais quand le lendemain, ou alors le deuxième jour, une des voyantes a été guérie d'une conjonctivite aiguë qu'elle avait depuis bébé ou très très jeune. Tous les matins, on lui appliquait une serviette chaude sur les yeux parce qu'elle avait les yeux totalement collés. Le lendemain matin de la première apparition, plus aucune conjonctivite, plus de lunettes. Donc le papa a été convaincu parce que lui, il voyait tous les matins sa petite fille soignée. Alors, 13 mai 1917, première apparition, 13 juin, 13 juillet, 13 août, les enfants sont en prison, mais l'apparition, Notre-Dame vient quand même. Parce qu'il y aura des signes quand même extérieurs à chaque fois que la Vierge Marie arrive. Une sorte de petit coup de canon, un petit coup de tonnerre, la lumière du soleil s'affaiblit. Voilà, il y a des signes à chaque apparition. Le 13 septembre et le 13 octobre. Le 13 mai 1917, la Vierge Marie demande à Jacinthe, François et Lucie de venir tous les mois, le 13 du mois, et elle leur dit qu'elle est du ciel. Ensuite, le 13 juin, elle leur dit qu'elle va demander au nom de son Fils, au nom de Dieu, la dévotion à son cœur immaculé. Et elle annonce aussi la dévotion des premiers samedis du mois. Le 13 juillet, elle montre l'enfer aux enfants et avant, elle leur montre leur âme. C'est-à-dire que les trois enfants vont voir leur âme comme en reflet, dans la lumière qui venait de la Vierge Marie. Et elle leur promet qu'ils iront au paradis, tous les trois. Et donc, pour ensuite voir l'enfer, ils diront, ça nous a aidés, parce que si on s'était imaginé qu'on allait pouvoir rejoindre les autres, ça aurait été terrible. Et cette vision de l'enfer, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est-ce pas, d'un côté terrifiant d'une âme catéchiste échevelée, eh bien, cette vision de l'enfer va pousser les enfants à préciser ce message d'une manière très forte. C'est nous, la Vierge Marie nous a demandé de prier pour les vivants qui sont en voie de se damner. Il y a eu d'ailleurs un quiproquo pour prier pour les âmes du purgatoire et les enfants disaient bien non, non, c'est pour les pécheurs vivants. Voilà. Et il faut les empêcher de se damner. Le 19 août, les enfants sont un peu tristes parce que même s'il y a des gens qui les croient et qui viennent, tout le monde ne les croit pas, surtout au village. Et ils demandent instamment un miracle. Et la Vierge Marie leur dit, il y aura un miracle pour vous permettre de vous croire. Le 13 septembre 1917, la Vierge Marie va parler de la guerre, à nouveau, plus précisément, et va dire que, lors du miracle, Saint Joseph et l'enfant Jésus vont bénir le monde pour que la guerre s'arrête. Nous sommes pendant la Première Guerre mondiale. Le 13 septembre 1917. Et les enfants, justement, verront Saint Joseph et l'enfant Jésus dans un hologramme immense au-dessus de la plaine que seuls les trois enfants verront. La Vierge Marie a annoncé aux enfants donc qu'elle verrait Saint Joseph et ils l'ont vu. Qu'elle verrait Notre-Dame des Sept Douleurs. Ils l'ont vu, avec le corps du Christ dans ses bras, la Pietà, et Notre-Dame du Mont-Carmel, et ils l'ont vu. C'est-à-dire qu'ils ont vu des grandes images pieuses, vous voyez, c'était vraiment une grande, grande leçon de catéchisme, et les enfants témoigneront de ces visions. Mais le 13 octobre 1917, ils auront ces visions. Mais tout le monde verra, surtout, le soleil se décrocher, l'orbe solaire se décrocher et bouger dans le ciel rapidement. La danse du soleil a été assez forte, si vous voulez. Le soleil tournait, bougeait, faisait des ronds, surtout. Et plus il faisait des ronds, et plus il se rapprochait de la Terre. Et à un moment donné, il était tellement proche de la Terre. Il y a des personnes qui vont s'évanouir, d'autres qui vont se mettre à genoux, les autres vont prier pensant que c'est la fin du monde. Et non, la lumière du soleil s'est arrêtée à un moment donné, ils sentaient même la chaleur, et la lumière du soleil a retrouvé sa place originelle avant le début du miracle. beaucoup de personnes vont croire, et surtout des personnes athées ou agnostiques étaient présentes, et qui riaient au début, le 13 octobre 1917, parce que toutes les apparitions se sont faites à midi solaire, parce que le bon Dieu est très naturaliste. Hein. Et à l'époque, voyez-vous, l'heure légale était en avance d'une heure et demie. Et donc, quand il a été midi, mais midi légal, vous aviez des personnes qui étaient là en disant « Ah ben voilà, elle apparaît pas, hein, elle a eu peur de faire le miracle et tout. » Et ils ont rigolé pendant une heure et demie. Et puis à midi solaire, ils n'ont plus ri du tout. Voilà. La Vierge Marie va apparaître à nouveau ensuite à Sœur Lucie. Il faut savoir que les deux petits voyants vont mourir assez rapidement, puisque la Vierge Marie leur avait dit qu'elle allait les emmener. Et de fait, elle va les emmener, Jacinthe et François. Et Sœur Lucie va rester pour témoigner. Alors, elle pleure, il pleure, mais c'est ce qui s'est passé. Oui, en effet. Et alors qu'elle va rentrer en religion, elle aura des apparitions de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus, s'il vous plaît, le 10 décembre 1925. Et l'enfant Jésus lui montre le cœur de sa maman entouré d'une couronne d'épines et il lui dit « il faut aller voir les prêtres et instituer la prière en réparation des insultes et des offenses qui sont faites à ma mère. » Vous voyez, nous verrons quelles sont ces 5 offenses. Et la Vierge Marie est là avec dans sa main un cœur, son cœur avec une couronne d'épines autour, et l'enfant Jésus à côté qui lui dit. Voilà ma mère qui souffre à cause de vous. Ensuite, le 15 février 1926, c'est l'enfant Jésus qui lui apparaît tout seul, et pas dans une lumière. Elle voit un petit enfant, elle l'interpelle, l'enfant se retourne, et et il lui dit, qu'as-tu fait de ce que m'a demandé ma mère ? T'as demandé ma mère. Et sur le site, du coup, vu les paroles du petit enfant, se dit bien que c'est l'enfant Jésus. Et ensuite, il lui redit qu'il faut cette dévotion des 5 premiers samedis du mois. C'est assez impressionnant. Hein. À Tuy, ensuite, alors qu'elle est en heure sainte, qu'elle prie devant le Saint-Sacrement, notre Seigneur lui redemande cette prière et cette prière de réparation. Le 13 juin 1929, le 29 mai 1930, et elle a une vision assez impressionnante parce que la Vierge Marie est toujours là avec son cœur entouré d'épines, mais au-dessus de l'autel, Sœur Lucie voit Jésus crucifié, dont le sang coule des plaies assez fortement, avec le Père. Qui est au-dessus de son fils, et je crois qu'il y a la colombe du Saint-Esprit. Oui, ça sera sur la page 16. Donc c'est une vision assez impressionnante. Vous voyez, grâce et miséricorde, et au niveau du coup de lance, notre Seigneur est représenté mort, il y a un calice qui recueille le sang, et au-dessus du calice, une hostie. Alors, donc je récapitule et c'est important. Fatima est donc toute une série d'apparitions de 1915 jusqu'à 1930. Ça, c'est moins connu. Ensuite, il y a un problème de secret qui est révélé particulièrement à Lucie et à Jacinthe. François n'entendra jamais rien. Il verra la Vierge Marie les 6 fois, mais il n'entendait rien. Enfin, il était tellement heureux de voir la Vierge Marie qu'il s'en contentait finalement, tout à fait, et elle lui répétait tout ce qu'elle disait. Hein. Donc, vous voyez, le petit François n'était pas encore assez sain, c'est un petit garnement, donc voilà. Hein. Vous vous rendez compte, à 7 ans, hein, c'est grand pêcheur. Hein, ça. Mais oui, comme quoi, n'est-ce pas, l'âge de raison, ça vient vers 3-4 ans, hein, vous savez. Ah là là. Donc, il va y avoir ensuite tout un problème de révélation des secrets. Sœur Lucie va se battre contre le clergé, contre les évêques et contre les cardinaux et contre et pour faire passer son message le plus possible. Et on tergiverse. Elle a des ordres très particuliers de la Vierge Marie. Elle n'ose pas mettre par écrit le troisième secret. On lui intime l'ordre de l'écrire. Elle le fait. À un moment donné, on lui dit « Ne dites pas que vous êtes la voyante de Fatima, vous allez changer de couvent. On va vous mettre dans ce couvent, mais surtout vous ne dites pas qui vous êtes. » Comme Sainte Catherine Labouré ne dira jamais qu'elle a vu la Vierge Marie rue du Bac, hein, qu'à son confesseur, je crois. Et donc, elle, quand on lui donne l'ordre de mettre par écrit le troisième secret, elle ne veut pas mettre son nom. Donc elle le met à la troisième personne, enfin une partie du secret. Enfin, vous verrez que c'est assez compliqué. Qu'elle va très régulièrement demander à ce que la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie par le pape en union avec tous les évêques publiquement soit faite, et elle va le demander souvent, et il va y avoir toute une polémique. Donc j'ai essayé de prendre sur internet ce petit trésor que vous avez ici. C'est un travail remarquable, mais il y avait des parties extrêmement critiques et extrêmement polémiques que j'ai coupées, et mais qui m'ont appris que c'était extrêmement dur. Vous avez tel ou tel prêtre qui ont milité pour la divulgation du troisième secret, pour la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie en union avec tous les évêques, et qui se sont fait suspendre, semble-t-il, hein, d'après les témoignages, on allait lors d'une audience qui était publique. On interpellait un prêtre, interpellait Jean-Paul II pour lui demander ce qu'il en était. Jean-Paul II répondait telle ou telle phrase. Mais vous voyez, je ne l'ai pas mis ça, parce que ça peut être faux. Et j'ai pas envie de vous encombrer la mémoire. Vous voyez, il n'y a pas de preuve. Donc je suis désolé. Moi, un prêtre qui dit j'ai vu le pape, je lui ai dit ça, il m'a répondu ça. Ça, moi je peux l'inventer ce soir. Hein. Donc. Alors, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Les apparitions de 1915 et 1916, l'ange précurseur. Page 2. Alors âgée de 8 ans, la mère de Lucie lui confia la garde du troupeau. Hein? Vous vous rendez compte, on travaille à 8 ans. Vous voyez, le droit du travail, n'est-ce pas? Comme tous les enfants, elle avait des petits camarades de son âge avec qui jouer. Elle s'était choisie pour amie trois autres fillettes. Teresa Mathias, sa sœur Maria Rosa et Maria Giustino. C'est en leur compagnie que Lucie bénéficiera par trois fois de l'apparition de l'ange. Ah, c'est très intéressant. Il n'y a pas que Lucie, Jacinthe et François qui ont été au contact de ce surnaturel. Les trois fillettes avaient monté leur troupeau jusqu'à la cime de la colline où se trouvait un grand terrain planté d'arbres. Vers midi, elles mangèrent, puis ensuite récitèrent le chapelet. À 8 ans, hein, c'est sûr. Comme il était coutume de le faire dans les campagnes portugaises à l'époque. À peine ayant commencé leur récitation, les enfants virent comme suspendus en l'air, au-dessus des arbres, une figure semblable à une statue de neige, que les rayons du soleil rendaient un peu transparente. On est en 1915. Vous voyez, tout ça, ça authentifie toutes les choses merveilleuses qu'on vous raconte. Il y a 2000 ans, au Moyen-Âge, les corps incorrompus, c'est extraordinaire. Donc tout est vrai. Mais non, il y a ça qui a inventé tout ça. Bon, allez, 90% est vrai. Quand vous avez Saint-Pierre qui est libéré par un ange de sa prison à Jérusalem, il le réveille, il dit « Maintenant, on sort ». Très bien. Donc, il y avait des gardes qui sont tous les deux complètement inertes. Toutes les portes sont ouvertes. Tout le monde dort. Il sort de la prison, il se retrouve dans la rue. Et là, il se dit, et il le dit, hein, c'est dans les Actes des Apôtres, « Je vais me réveiller ». Voilà. Et il se réveille pas, enfin, il est dans la rue. Alors, l'ange disparaît. Il a accompli sa mission. Il est là. Mais au bout de 5-7 minutes, il se dit quand même, je vais pas rester là, au cas où il se réveillerait derrière, vous voyez. Donc, il part en courant. Et il va au Cénacle. Il tambourine à la porte. Et vous avez une sainte femme qui est là. Et c'est Pierre. Ah, oh, c'est Pierre. Donc elle part dans la maison. Elle dit, Pierre est là, Pierre est en bas, Pierre est en bas. Et les autres lui disent, c'est dans les Actes des Apôtres, hein. Et tu lui as ouvert? Ah non. Donc, ils descendent. Lui, terrorisé dans la rue, la porte fermée. Il avait entendu une voix amie. Il reste dehors. Enfin, décidément, c'est plus un rêve, c'est un cauchemar, n'est-ce pas? Mais on lui ouvre et il dit, voilà, un ange m'a libéré. Mes liens sont tombés et tout était ouvert dans la prison. Une autre fois, il y a eu un tremblement de terre, alors que Pierre était en prison, et d'autres apôtres, et tous les liens sont tombés, et toutes les portes se sont ouvertes dans la prison. Et là, le gardien en chef de la prison voulait se jeter sur son épée et se tuer, de peur d'être massacré par les prisonniers, et puis de toute façon d'être puni. Et Saint-Pierre lui dit, il ne faut pas s'inquiéter, personne ne sortira. Et là, par un miracle moral et psychologique très fort, hein, les prisonniers sont tous restés dans leurs cellules. Donc là, c'est vraiment le bon Dieu, là. Et il dit, non, non, non. Ah bon, c'est... Mais alors, qu'est-ce que ça signifie? Nous, par contre, on sort. Bon, alors, il les fait sortir, et il les invite chez lui, et Saint-Pierre baptise le chef de la prison avec toute sa famille. Et ils repartent au temple. Et vous avez le Sanhédrin qui en a... Ils sont en train de prêcher au temple. Enfin, ils étaient en prison hier. Oui, mais enfin, ils sont sortis de prison, on ne sait pas trop comment. Voilà. Mais la deuxième fois où Saint-Pierre a été sorti par l'ange, c'était... il allait mourir. Certainement. Donc là, il va s'enfuir. Bon. Alors quand on vous raconte ça, c'est dans les Actes des Apôtres, ça fait sourire les exégètes, hein. Et pourtant ils ne devraient pas rire. Alors quand on leur raconte ça, alors là ils meurent de rire. Et attention, parce que mourir, c'est être jugé par notre Seigneur Jésus-Christ, et le jugement particulier d'un exégète, voyez-vous, c'est comme les orages que vous avez eus, ou la grêle, tout ça, quand vous avez un chef exégète qui meurt, ben c'est un ouragan sans doute qui... Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on va rentrer dans le surnaturel. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de temps en temps. Tout en continuant le chapelet, les petites filles fixèrent les yeux sur cette figure qui disparut dès qu'elles l'eurent terminée. Il était là. Et il disparaît quand elles terminent de prier. La nouvelle de cette première apparition se répandit au village. Les trois petites filles, elles disent, on a vu un personnage lumineux, translucide. Comme une statue. Il n'avait pas d'ailes. Donc, elles disent pas que c'est un ange. Car les compagnes de Lucie le racontèrent aussitôt, mais personne n'y fit attention. Disant que cela était des balivernes. Bien sûr, les petites filles furent très réprimandées par leurs parents, et même battues. Voyez. Tout le village se moquait des fillettes. Notons que les enfants ne dirent pas « Nous avons vu un ange », mais nous avons vu quelque chose qu'elle ne savait décrire, mais qui plus tard diront que cette chose avait une forme humaine. Cette chose, donc, apparaîtra deux autres fois aux mêmes petits-enfants. Mais quelle est la signification de telles apparitions si aucun message n'a été délivré aux fillettes? C'est déjà pas mal hein, pour sa vie de foi, vous voyez. Si vous, dans votre enfance, vous aviez vu un ange à trois reprises, eh bien ça vous aiderait à résister à un prêtre qui vous dirait « Mais non, les anges, ça n'existe pas. » Et enfin, moi, je les ai vus. « Mais tu es folle, ma pauvre petite. » Mais il y en a plein d'autres qui les ont vus, quand même. Et puis, dans la Bible, c'est marqué qu'ils existent et qu'ils agissent. Mais pourquoi vous me dites ça? Vous êtes un hérétique? Ouais. Nous pouvons penser que Dieu voulait préparer Lucie aux apparitions de la très sainte Vierge, puisque c'est des trois enfants présents ici, c'est elle qui eut le privilège de voir Notre-Dame. Mais un an plus tard, en printemps 1916, là on a les trois voyants de Fatima. Enfin, il faudrait quand même pas oublier dans nos prières la petite Teresa et Maria Rosa. Parce que, voyez-vous, elles ont vu l'ange trois fois. Un an plus tard, au printemps 1916, l'ange se manifesta de nouveau, mais cette fois aux trois petits pastoureaux, Lucie, François et sa sœur Jacinthe. Ces deux derniers avaient, eux aussi, obtenu la permission de leurs parents pour garder leur troupeau. Dès lors, les trois cousins étaient souvent réunis. Alors, ici, ça doit être évident pour eux. Mais donc, leur nom de famille, quand même. Je ne veux pas faire d'erreur. Là, c'est pas rappelé. Bon, et là, tant pis pour moi. Marteau, voilà. Marteau, c'est deux, François et Jacinthe Marteau sont deux frères et sœurs, et Lucie est la fille de leur tante, de leur oncle. Ces deux derniers ayant donc eu la permission d'être dans le fait de garder les troupeaux, ils sont tous ensemble. Ce jour-là, ils étaient montés sur le versant de la colline avec leurs brebis. Jouant depuis un certain temps, voici qu'un vent assez fort secoua les arbres. Levant les yeux, les enfants virent au-dessus des oliviers une chose d'une forme humaine s'approcher d'eux. Plus distinctement, cette fois, on peut décrire que cette chose avait l'apparence d'un jeune garçon de 15 ans, tout au plus, vêtu d'un blanc pur, que le soleil rendait transparent comme s'il était en cristal. Voyez. En arrivant près des trois enfants, l'ange dit « Ne craignez pas, je suis l'ange de la paix, priez avec moi. » Puis, s'agenouillant à terre, il courba le front jusqu'au sol, hein, avec son corps d'emprunt, c'est joli, hein, son corps lumineux. Les enfants firent de même et répétèrent les paroles qu'ils entendirent. « Mon Dieu, je crois... J'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » Voilà. La prière d'un ange. Il répéta trois fois cette prière, puis il se releva en disant « Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. » Puis, il disparut. Vous voyez, quand on dit que le dimanche de Pâques, Jésus apparaît d'un coup au Cénacle, alors que toutes les portes étaient fermées, eh bien c'est vrai. Et quand il a terminé de leur parler, il disparaît, eh bien c'est vrai. Quand vous avez Jésus qui marche sur le chemin de Jérusalem à Emmaüs et que vous avez les deux disciples qui sont là, tout est foutu, moi qui devais être secrétaire d'État, parce que Mini c'était pour les apôtres, donc là ils sont là. Le Messie est mort, tout est fini. Et Jésus arrive et dit, pourquoi vous êtes triste? Vous n'avez pas entendu ce qui s'est passé à Jérusalem? Non. Jésus, non. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Enfin, il est quand même le premier concerné, il a été crucifié. Et donc, dans un humour inénarrable, Jésus dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, eux, ils disent, oh, ben, quand même, il y avait un homme qui venait de Galilée, qui était extraordinaire, qui a fait des miracles et tout, il lui raconte, ah bon, très intéressant. Mais, voilà. Et il était le Messie, sans doute, et puis il est mort. Le Messie peut pas mourir et tout ça. Et alors, il leur dit, qu'est-ce que vous êtes bêtes? Lent à croire, hein, ce que disent les Écritures. Hein. Et là, il leur fait une leçon d'exégèse qu'on aurait bien eu envie d'avoir. Oui. Mais probablement, hein, toute une partie de ce que le Christ a dit aux disciples d'Emmaüs se retrouve dans les Actes des Apôtres, parce que les disciples d'Emmaüs ont parlé et ont dû essayer de se souvenir le maximum de ce qu'ils ont entendu, même si eux n'ont pas été des hagiographes. Hein. Mais voilà. Et alors que la nuit arrive, qu'ils dépassent une auberge, et ils sont là et disent « Venez manger avec nous ». Ils se laissent faire, ils s'attablent, ils prennent le pain, le séparent et ils disparaissent. Juste au moment où eux le reconnaissent. Hein. Ils l'ont vu pendant 3 ans, mais là, voyez-vous. Alors comment Jésus empêche de le reconnaître? Est-ce qu'il agit sur leur imagination? Est-ce que lui-même se donne une apparence différente? Parce que vous allez voir que dans Fatima, Jésus apparaît sous la forme d'un enfant. Donc Jésus fait ce qu'il veut, voyez, pour nous atteindre. Et je connais des mystiques, le Christ leur est apparu sous la forme d'un lion. Hein, le lion de Juda. Voyez. Parce qu'il y a une très vieille prière, hein, le lion de Juda, c'est un des noms du Messie, hein, mais il a vaincu le lion de Juda, le rejeton de David, et il a chassé ses ennemis. François a été le seul, encore une fois, les garçons, hein, c'est pas, on est vraiment. Regardez à la messe, hein, en semaine. Enfin, Saint Eugène peut faire exception, il y a parfois des messieurs. Enfin, à travers la France et à travers le monde, hein, c'est plutôt les dames qui vont à la messe en semaine. Hein, et puis même le dimanche, actuellement, c'est plutôt des dames. Hein. Les hommes, ils étaient au bistrot pendant des siècles. Et puis là, actuellement, François était le seul à ne pas entendre les paroles de l'ange. Et il en sera de même pour toutes les apparitions. Cependant, il eut lui aussi le privilège de voir les présences divines, quand même. Je suis l'ange du Portugal. Cette seconde apparition s'est sans doute passée en été, car il faisait très chaud. Les 3 enfants revenaient avec le troupeau au milieu de la matinée, étaient en train de jouer près du puits, lorsqu'ils virent le même ange, qui leur dit « Que faites-vous ?» Il jouait. « Priez. » Priez beaucoup. Les 5 heures de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez sans cesse au Très-Haut des prières et des sacrifices. Imaginez les enfants de 8-10 ans. Lucie demanda comment devait-il faire pour se sacrifier. Et l'ange lui répondit. De tout ce que vous pourrez, offrez à Dieu un sacrifice en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé, et de supplication pour la conversion des pécheurs. De cette manière, vous attirerez la paix sur votre patrie, le Portugal. Hein. Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal. Surtout, acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le Seigneur vous enverra. Maladie,